Il est 11h13. On va aller rejoindre tout de suite Patrice Saint-Pierre. Bonjour, Patrice.
Hey, bonjour, Annick.
Patrice, on a parlé la semaine passée de la loi Françoise David, mais on revient là-dessus cette semaine parce que la FADOC s'est présentée à l'Assemblée nationale, en fait.
Oui, exactement. Donc, la semaine dernière, jeudi dernier plus précisément, notre présidente provinciale, Mme Gisèle Darcy-Goodman, a eu l'occasion d'être avec notamment des représentants de Québec solidaire et des représentants du Parti québécois pour demander au gouvernement de revoir là, l'article connu là, sur le Code civil 1959.1 qui est devenu le projet de loi 198 pour élargir la disposition de la loi Françoise David. On se rappelle, c'est pour l'éviction des gens dans les qui ont un logement. Donc, les personnes qui ont 70 ans et plus et qui sont à faible revenu, donc sont protégés par cette loi-là pour des mesures d'éviction. Dans le projet de loi, ce qui a été présenté, on se le rappelle, par la FADOC à l'époque, à l'automne dernier, c'est d'abaisser l'âge à 65 ans et également d'abaisser les conditions de revenu pour les gens admissibles également de 5 000 $. Donc, actuellement, la ministre Françoise Duranneau avait jusqu'à maintenant refusé de modifier selon la proposition qui en a été faite. Par contre, la pression s'accentue actuellement sur le gouvernement. Il y a eu un débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale.
Oui, oui.
Qui malheureusement ne s'est pas conclu. En tout cas, il y a toutes des stratégies. On ne rentre pas dans tout l'aspect politique de la chose. Mais la CAQ a notamment là, étiré le débat pour faire en sorte qu'il n'y ait pas eu de vote de prix à l'Assemblée nationale. Mais on comprend que ça va revenir en chambre. Et nous, c'est simplement là pour toujours redémontrer la pertinence de l'action de la FADOC pour maintenir une pression sur les gouvernements, pour faire en sorte là, d'avoir des lois qui protègent, qui ne donnent pas des privilèges aux gens qui avancent en âge, mais qui sont des choses qui sont juste conséquentes du marché, des situations qui sont vécues actuellement. Alors, on espère bien là, que ça va avoir un dénouement au cours de la prochaine année, mais le travail est fait actuellement et plusieurs partenaires se sont alliés là, pour demander au gouvernement cette modification-là.
C'est le salon 50+, qui s'en vient, qui va commencer le 12 avril. Et tu as une invitation particulière à faire aux gens qui nous écoutent.
Écoute, on est vraiment très, très fébrile. Puis les gens qui écoutent nos chroniques régulières vont dire « Mon Dieu, qu'ils nous en parlent. » Je vous en parle parce que c'est un incontournable. Il faut, pour ceux qui n'ont jamais foulé le site du Centre Mario Tremblay, Centre Multisport, pour venir visiter le salon, c'est important de le faire. Pour d'autres, il y a une multitude de raisons de le faire, mais je voulais vous parler principalement parce qu'il y a plusieurs, on sait qu'actuellement, il y a des sports qui sont en vogue, qui gagnent en popularité. C'est le cas du pickleball qu'on a eu l'occasion de traiter dans nos différentes chroniques. Il y a une importante compétition. Écoute, cette année, là, on est complet. On a augmenté sur l'an passé notre capacité d'accueil à 120 joueurs. On est passé de 90 à 120 joueurs et on aurait encore d'autres qui auraient désiré s'inscrire. Par contre, avec les infrastructures, c'est un maximum qu'on est capable de prendre. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que les gens, oui, vont pouvoir venir voir la compétition qui va se dérouler de pickleball, mais il va y avoir également de l'essai qui va pouvoir se faire. Donc, on va avoir des terrains qui vont être accessibles. On va avoir des gens qui vont être là, des formateurs. On va avoir un kiosque également, où tout le matériel qui peut être utilisé, là, les balles, les raquettes, les lunettes de protection que les gens peuvent porter, il va y avoir de l'information qui va être donnée. Donc, je voulais dire, pour les gens qui ont entendu parler depuis longtemps du pickleball, ben c'est probablement une belle occasion de venir voir ça. C'est également la même chose pour le cornhole et la babette. On sait qu'actuellement, le cornhole connaît une fulgurante progression au Québec. Et ça, à tout âge, hein, pas simplement chez les 50 ans et plus. Là, ça se joue beaucoup, beaucoup sur les terrains de camping, mais ça, la popularité a explosé à l'extérieur des terrains de camping.
C'est comme tu dis, cornhole, c'est quoi exactement?
Le cornhole, c'est une boîte qui mesure 4 pieds par 2 pieds de large, qui est légèrement anglée. Ça joue à une distance de 27 pieds avec 3 sacs de sable qui sont plus pesants là, que les sacs conventionnels qu'on connaît. Et ça joue à une distance de 27 pieds. Les gens vont pouvoir également voir et essayer. Les compétitions vont se dérouler là durant le week-end. Il y en a plusieurs qu'on a connu sous ce nom-là aussi de camping poche.
Oui, quand j'étais plus jeune, je jouais aux poches, ça ressemble à ça, sauf qu'il y a moins de trous, là.
Oui, il y a simplement un trou sur la boîte de 2 pieds par 4 pieds. Et la babette, c'est la même chose, sauf que la boîte a 2 pieds par 3 pieds. Et au lieu de jouer à 27 pieds, on joue à 21 pieds. Parce que, mine de rien, là, 27 pieds avec le poids des sacs pour le cornhole, c'est quand même assez exigeant.
OK.
Et ce qui
Pour
est quand même
commencer, on
ça.
commence par la babette.
Oui, ben c'est ça. Mais il y en a tout de suite qui font directement le switch. Mais si je regarde, là, il y a eu un très, très gros tournoi au début, après les fêtes, ici, en début d'année, là, à Alma, un tournoi provincial de cornhole. J'ai eu l'occasion de passer voir et on avait des gens de toutes les catégories d'âge. Puis je vous dirais même que majoritairement, les joueurs qui étaient là, c'était des gens qui n'avaient pas 50 ans. Donc, tout ça pour dire que même si on pense que c'est un sport qui peut intéresser que les personnes plus âgées qui avancent en âge, ben c'est pas le cas parce que au Québec actuellement, ce qu'on voit, c'est une forte progression. Alors, c'est un petit rappel pour dire aux gens, ben regardez, venez faire un tour, vous allez pouvoir voir ces activités-là, en plus de toutes les activités virtuelles qui vont être organisées, les conférences, le volet conférences qui est fort intéressant, les ateliers de culture scientifique. Bref, et je rappelle que tout ça est gratuit pour le public.
Absolument. Maintenant, on va changer de sujet. On va aller directement dans un sujet vraiment d'actualité, réchauffement climatique, parce que la santé des aînés est menacée.
Oui, puis écoute, il y a des données qui sortent, puis là, vous allez dire, mon Dieu, on parle de réchauffement climatique en plein printemps. Ben, écoutez, je vous en parle parce qu'il y a différents aménagements, des fois, qu'on peut faire dans notre maison qui vont avoir une incidence sur notre quotidien. Puis, je pense que c'est important de mentionner que les vagues de chaleur qu'on connaît, qui sont de plus en plus nombreuses, vous avez vu, même cet hiver, on a eu une vague de chaleur en plein hiver.
Mm-hmm.
Donc, les vagues de chaleur sont plus régulières et les données, notamment des dernières années, là, de 2018, 2019, a confirmé ça aussi. 2020, avec le COVID, bien, c'est un petit peu plus difficile de pouvoir bien quantifier là, avec tout ce qui s'est passé, mais 2018 et 2019 ont été des années extrêmement probantes qui ont démontré une hausse des décès, des hospitalisations qui ont été provoquées, des transports ambulanciers également qui ont été provoqués par les impacts de la chaleur extrême. Là. On se rappelle que pour qu'on ait une vague de chaleur, il faut que la température soit supérieure là, à 31 degrés et à 16 à 20 durant la nuit, durant 3 jours consécutifs. Donc, j'ai placé sur notre site Internet une page de conseils de différentes mesures qu'on peut adopter. Je pense qu'ils sont très, très importants. Les gens parlent toujours de la climatisation. On a tendance à penser immédiatement à ça, mais il y a d'autres mesures, ne serait-ce que, exemple, fermer nos toiles plus tôt le matin pour éviter d'avoir du soleil qui va être projeté dans notre maison, de boire régulièrement. Et ça, c'est un des éléments les plus importants. Les gens s'hydratent souvent pas assez. Et ça,
souvent, ils attendent d'avoir soif, puis quand c'est rendu là, c'est trop tard.
Ben écoute,
d'une
moi,
certaine
qui
façon.
Fais beaucoup de vélo et qui donne également des cours de spinning, je passe le temps à dire aux gens, effectivement, quand vous buvez parce que vous avez soif, c'est que vous êtes déjà en carence. Donc, ça, c'est très, très important de boire régulièrement des petites quantités d'eau. Puis en plus, ce qui est important, un véhicule avec l'essence, on va faire le plein quand il est vide. Le corps humain il fonctionne différemment. Il a besoin d'eau de façon régulière. Vous êtes mieux de faire plusieurs petits pleins que de faire un plein énorme. Et ça, je pense que c'est très, très important. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se munir de climatiseurs ou tout ça. Mais là, c'est là que c'est important d'avoir des toiles, de s'hydrater régulièrement, d'avoir également peut-être là, des petits ventilateurs pour au moins avoir un peu de vent qui va circuler, de trouver des zones à l'ombre dans un sous-bois, d'aller également, on voit, hein, la fréquentation des centres d'achat va augmenter les journées de canicule parce qu'il y a des gens qui vont aller chercher la fraîche.
Oui,
donc,
l'acclimatiser.
Ça, je pense que c'est important. J'invite les gens à aller lire ces éléments-là parce que je m'aperçois, pour parler aussi avec des gens dans mon entourage, que les gens sont de plus en plus touchés par ça. C'est pas toujours facile, c'est pas tout le monde qui peut aller à la plage ou qu'il y a une piscine à proximité non plus. Très, très important, des fois aussi, juste se mettre une débarbouillette fraîche au bas de la nuque va nous aider également. Donc, très important parce qu'il faut pas négliger le fait que les coups de chaleur, ça peut être très, très dommageable pour notre santé.
Patrice, on nous dit régulièrement de marcher 10 000 pas par jour pour être en santé. Moi, j'entends ça depuis des années. Je connais plein de gens qui font ça, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Qu'en est-il exactement?
Ben oui, puis écoute, moi-même, lorsque j'ai lu l'article, j'ai été très, très intéressé par la chose. C'est le docteur Martin Junot qui est au niveau de l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui mentionnait que, en fait, le nombre de pas par jour, puis je t'ai envoyé l'article, je ne me poserai pas la question, mais le nombre de pas par jour, normalement, qu'on devrait faire se situerait plus entre 4000 et 7000. Parce que ce qu'on dit, ce qui est important, ce qui va vraiment diminuer la prévalence là, des maladies coronariennes, du cancer, c'est de marcher 15 minutes par jour. On va réduire les causes de mortalité d'environ 14 à 15 %. C'est quand même énorme pour un petit 15 minutes d'investissement de marche.
Vrai.
C'est très, très important. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que le gain au niveau de la santé, lorsqu'on marche, exemple, on dit « Ah, je vais marcher longtemps, puis je vais essayer de marcher de plus en plus longtemps », bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que au-delà de 90 minutes, il n'y a plus de gain au niveau de la santé.
C'est comme un plateau.
Exactement. Hein? Donc, marcher une heure et demie par jour, c'est nettement suffisant. Si vous marchez plus que ça, bon, tant mieux, vous allez avoir du plaisir. Mais il n'y aura pas de gain de bénéfice au niveau de la santé. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est la régularité. D'en faire au moins 15 minutes par jour, on diminue vraiment là, la prévalence à développer des problématiques de santé qui sont importantes. En plus, on stimule nos endorphines, hein, on vient avec des belles endorphines, et on a du bien-être qui est intéressant. Puis, mais le mythe du 10 000 pas par jour, écoute, ça nous vient de, c'est pas drôle, mais ça nous vient d'une publicité de Coca-Cola.
Ah oui? Ah mon Dieu!
Qui avait été fait dans les années 60, en fait, là, à l'approche des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Ce qu'on avait voulu faire, on voulait faire en sorte là, de faire la promotion. Puis, on avait, à l'époque, là, les gens s'achetaient des podomètres parce que dans la publicité, on disait que c'était important de marcher 10 000 pas par jour. Puis là, on se servait de l'aspect des Jeux olympiques. Il y avait eu une explosion de la vente des podomètres pour faire en sorte que les gens marchent leurs 10 000 pas
par jour. Mais je trouve ça intéressant parce que quand on voit ça des fois puis qu'on n'est pas très, très sportif, on se décourage. On se dit « Ah, oh, j'ai pas le podomètre, je sais pas comment ça fait 10 000 pas par jour. » Mais 15 minutes, là, tu fais quelques tours de la maison si tu peux pas aller marcher plus loin. Puis c'est pas long que c'est fait, là.
Oui, tout à fait. Puis même maintenant, pour plusieurs personnes, on a des appareils mobiles, là, notamment avec les iPhones. Moi, je suis dans un environnement iPhone. Bien, vous les avez, vos pas par jour. Vous êtes capable de voir la progression ou non, ou qu'est-ce que vous avez fait en termes de marche. Fait que pas nécessaire d'avoir votre podomètre. Vous l'avez avec votre téléphone quand vous vous déplacez avec lui. Donc, mais ce qu'on retient, hein, parce que c'est toujours des questions de chiffres, retenons plus le temps qu'on doit y consacrer. Une marche de 15 minutes à l'extérieur, chez vous, au grand air, là, c'est nettement suffisant pour diminuer de 15 % vos prévalences de cancer et de maladies coronariennes. Juste ça devrait vous convaincre d'investir ce petit 15 minutes-là par jour.
Absolument. On va terminer là-dessus, Patrice. Puis la semaine prochaine, on va être très, très proche du salon. Fait que j'imagine qu'on va en parler. Je te remercie infiniment.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Il est 11h.